Jacques Achenbrois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Valeo. Nous sommes au siège de Valeo à Paris. Aujourd'hui, vous avez présenté vos résultats semestriels. Globalement, vous êtes en ligne avec ce que vous aviez donné aux investisseurs. On a vu qu'en termes d'activité, il y avait un deuxième trimestre moins fort que le premier.
C'est vrai que quand on regarde dans le détail, le premier semestre pour nous est très satisfaisant. On a une croissance de 16% de notre chiffre d'affaires. On a une croissance à périmètre et taux de change constant de 9%. C'est très satisfaisant et c'est plutôt en avance par rapport à notre cahier de route. Mais quand on regarde dans le détail le premier trimestre et le second trimestre, il y a une croissance plus forte au premier trimestre qu'au second trimestre. C'est la vie. Mais il ne faut jamais oublier, ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'en Europe, qui représente encore un peu moins de 50% de notre chiffre d'affaires, en Europe, on a été très impacté par un nombre de jours ouvrables assez important, puisqu'il y avait 2 jours ouvrables et demi en moins dans le périmètre de Valeo, ce qui représente à peu près l'équivalent de 4% de chiffre d'affaires. Donc on a été très impacté, mais globalement, on sent que l'industrie automobile était beaucoup plus forte au premier trimestre qu'elle n'en est au second trimestre.
Alors, quand on parle de l'évolution de l'activité de Valeo, il y a clairement vers l'Asie un mouvement de fond vers l'Asie qui se confirme à semestre, trimestre, on pourrait dire trimestre après trimestre.
Alors, il y a deux phénomènes de fond qui se passent. Il y a l'Asie. Vous savez que l'Asie représente 55% de la production automobile. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires. C'était moins de 20% de notre chiffre d'affaires il y a 6-7 ans. Il faut qu'année après année, on augmente notre présence en Asie. On a pris le contrôle d'une société japonaise. On va prendre le contrôle d'une JV en Corée. On a un momentum de croissance extrêmement fort en Chine, qui est notre premier pays aujourd'hui. Donc l'Asie, dans nos projections actuelles, devrait représenter dans les années qui viennent aux entours de 35-37% de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que notre modèle de croissance est lié à l'innovation. On dépense beaucoup d'argent en innovation, plus de 11% de notre chiffre d'affaires en innovation. Et quand on regarde les résultats de cette innovation, la façon dont on investit dans les 3 révolutions technologiques que connaît l'industrie automobile, l'électrification des moteurs, la voiture de plus en plus connectée et autonome, et puis cette mobilité digitale, nous avons des niveaux de prise de commande à des niveaux historiques. On a augmenté nos prises de commande de 16% au premier semestre. Si on rajoutait les prises de commande de Valeo Siemens, donc notre joint venture avec Siemens qui est spécialisé dans les véhicules électriques, on a des niveaux de prise de commande absolument significatifs, remarquables, j'allais dire, qui nous donnent un potentiel de croissance dans les années qui viennent extrêmement fort.
Alors justement, vous avez même dit pour ceux qui suivent Valeo, parce qu'il y a souvent des questions d'investisseurs en disant « mais vous pourriez peut-être investir un peu moins ». Vous leur avez clairement dit que ce n'était pas la stratégie de fond de Valeo, que vous alliez continuer à investir et que c'était ça qui allait générer de la croissance.
Absolument. Il y a une façon très claire d'augmenter nos résultats à court terme. C'est de diminuer nos efforts de R&D et de profiter un petit peu de la lancée. Ce que j'ai dit assez clairement, c'est de la politique de gribouille. C'est privilégier le très court terme au long terme. Quand on a de telles révolutions technologiques qui se passent sur le marché, quand on a réussi à mettre Valeo dans un potentiel technologique qui nous permet de récolter les fruits des investissements que nous avons faits ces dernières années, appuyer sur le frein, ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut absolument qu'on continue d'accélérer. Évidemment, ça a un impact. Ça a un impact sur notre rentabilité. Ça a un impact sur notre cash, puisqu'on est obligé d'investir en R&D et d'investir dans des usines, que ce soit en France, en Europe et dans tous les pays du monde, pour faire face à cette croissance. Mais sur le moyen et le long terme, c'est ce qu'il faut faire. Et je ne crois pas que j'ai pris la responsabilité de Valeo pour privilégier le court terme au long terme. Il faut trouver le bon équilibre entre le court terme et le long terme. Et le premier semestre est une démonstration qu'on arrive à le faire. Et je voudrais rajouter un point. Chaque fois qu'on investit 1 euro dans la R&D, un euro supplémentaire dans la R&D, on augmente nos marges brutes de 3 euros. Donc on voit bien que c'est un très bon investissement que d'investir dans la R&D, d'investir dans l'innovation et d'investir dans la croissance.
Alors il y a quelque chose qui n'est pas évident forcément, c'est ce qui se passe sur justement les différents moteurs, alors les moteurs diesel, les moteurs essence. Vous nous avez montré que du côté du diesel, il y avait clairement une baisse, on l'a vu, mais c'est vrai que se projeter, savoir est-ce que c'est le véhicule électrique, véhicule hybride, qu'est-ce qui va se passer, vous devez être quand même sur tous les segments.
Aujourd'hui, personne ne le sait. On voit qu'après une montée très importante de la part du diesel en Europe, on est dans une phase descendante. Le diesel, maintenant, représente aux alentours de 47% des véhicules vendus en Europe, alors que c'était significativement plus que 50% il y a seulement quelques années. À quel niveau l'équilibre va se faire entre les motorisations et, diesel et essence? Je pense que personne ne le sait aujourd'hui, même si ma conviction, c'est que le diesel va continuer de baisser dans les motorisations en Europe. Pour nous, il est clair qu'il faut qu'on soit sur tous les segments de marché. Il faut qu'on soit sur le moteur thermique traditionnel, donc pour nous, essence, sur lesquels on a encore des possibilités de croissance assez importantes. On a été les premiers à rentrer dans les moteurs hybrides, en particulier ce qu'on appelle le 48 volts. C'est la façon de rendre un moteur électrifié par des petits moteurs électriques qui permettent d'optimiser le fonctionnement du moteur. Et puis, par notre co-entreprise avec Siemens, on est très présent sur le véhicule électrique. Donc, on est présent sur chacun des segments de marché, ce qui nous donne un potentiel de croissance dans chacun de ces segments. Mais évidemment, plus on va vers l'électrique, plus on profitera de cette croissance.
Alors, vous avez des gouvernements qui ont annoncé des plans à moyen terme. On parle de 2030, 2040 pour la France, par exemple, sur ces nouveaux moteurs hein, pour aller vraiment vers l'électrique. Est-ce que vous, ça vous donne plus de visibilité ou aussi ça vous pose question?
In fine, ce sera le consommateur qui décidera. C'est pas les gouvernements, ce ne sont pas les entreprises. Il y a un certain nombre d'avantages dans un moteur électrique, il y a un certain nombre d'inconvénients. L'autonomie d'un véhicule électrique est encore plus limitée que l'autonomie d'un véhicule thermique, à essence ou à diesel. Et puis le temps de recharge, on est habitué, vous et moi en tant que consommateur, à recharger sa voiture en quelques minutes quand il s'agit de faire le plein à une pose d'essence. Pour recharger en charge rapide, c'est plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Donc il va y avoir une modification du comportement du consommateur. Et puis les véhicules électriques sont aujourd'hui plus chers que les véhicules thermiques, que ce soit diesel et à fortiori essence. Donc ce sont des phénomènes sociologiques lents. Je ne crois pas à une interdiction des moteurs thermiques aujourd'hui. Je ne crois pas à une économie subventionnée. Ce n'est pas crédible. Mais regardez à quel rythme, à un moment, les appareils photos sont passés de l'argentique au numérique. Ou regardez à quelle vitesse le téléphone portable est passé du téléphone portable au smartphone, même si le coût était supérieur. Est-ce qu'on va subir ou voir le même phénomène dans le véhicule électrique? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le savoir, mais on voit qu'il y a un momentum aujourd'hui qui n'a jamais existé dans le passé.
Pour terminer, vous avez dit que vous étiez assez confortable finalement avec vos propres perspectives sur le marché automobile mondial, hein, entre 1,5 et 2%. Il y avait peut-être certains acteurs qui étaient plus optimistes que ça. Ça vous paraît quand même suffisant pour vous, pour Valeo, pour cette année 2017?
Alors, on a eu un très bon trimestre et vous le rappeliez tout à l'heure. À la fin du premier trimestre, on a demandé mais pourquoi est-ce que vous n'augmentez pas vos perspectives de production? Ce qu'on voit aujourd'hui montre qu'on a été peut-être plus réaliste que d'autres. Plus prudent, plus réaliste. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on surperforme, c'est-à-dire que notre croissance est très largement supérieure à la croissance du marché automobile. Sur le premier semestre, à périmètre et taux de change constant, on a cru de 9% quand le marché automobile a cru de 3%. Ce qui veut dire qu'on croît trois fois plus vite que le marché automobile. Et ce qui fait la force de Valeo, bien entendu, on préfère un marché automobile qui croît, mais ce qui fait notre force et notre originalité par rapport à beaucoup d'autres acteurs du marché automobile, c'est notre capacité à surperformer le marché automobile. C'est ce qu'on a fait au premier semestre et c'est ce qu'on continuera à faire au second et c'est ce qu'on a confirmé.
Merci Jacques Aschenbroix d'avoir été avec nous.
Merci.